les Assises de l'immobilier de Metz 2021. Plateau 4, où se situe l'état du marché immobilier, les facteurs de stabilisation et de dégradation.
Rebonjour à toutes et à tous, il est exactement 12h passé de 3 minutes, on est ravis d'être avec vous, toujours ici, au cœur de l'arsenal de Metz, la preuve qu'un bâtiment militaire peut être reconverti dans d'excellentes conditions. On est ravis d'être avec vous. C'est un plateau, c'est le plateau numéro 4 de la matinée, où se situe l'état du marché immobilier. On va faire un peu d'économie si vous voulez bien, mais vous inquiétez pas, on va vous donner les bonnes clés de lisibilité. Facteur de stabilisation ou de dégradation, tout un programme. Pour en parler, un économiste connu et reconnu en France, merci à Nicolas Bouzou d'être avec nous.
Merci de l'invitation.
Merci Nicolas. Applaudissements pour Nicolas Bouzou. Merci.
Merci.
Alors, le directeur général du Crédit Agricole devait être avec nous, mais il est remplacé dignement par Richard Rostouché, qui est avec nous, qui est directeur pour le Crédit Agricole de Lorraine. Bonjour, Richard.
Merci.
Voilà, et nous avons une universitaire qui est titulaire de la chaire European Real Estate Management, c'est ça ? Management. Fana Distler est avec nous, voilà. Triomphe.
Bonjour à tous.
Maître de conférence titulaire de la chaire, effectivement, European Real Estate Management, donc chaire immobilière. On va essayer de faire un peu moins d'anglicisme, si c'est possible. Merci en tout cas d'être avec nous. Je vais vous poser une première question à vous, Nicolas Bouzou. Alors, on vous connaît bien, hein, vous êtes sur tous les plateaux de télé, vous avez un avis très écouté, vous avez l'oreille aussi de grands dirigeants. Le marché immobilier, si vous deviez le définir structurellement sur le plan économique, il se constitue de quelle façon ?
Je dirais que le marché immobilier va trop bien. C'est une bonne chose pour vous qui nous écoutez et qui êtes dans la salle, mais en tant que citoyen et personne qui participe au débat public, c'est quand même un problème. Parce que pour répondre à votre question, vous me demandez de qualifier structurellement le marché de l'immobilier. Je parle du logement, là. Hein.
Oui, bien sûr.
En fait, il est très facile à qualifier structurellement. Hein. Il y a plus de demandes que d'offres. Voilà. Donc, c'est très bien pour tous ceux qui ont des revenus qui dépendent des prix, parce que ça fait forcément monter les prix. Nous, on a fait chez Asterès des études économétriques pour essayer de voir, de quantifier vraiment hein, les écarts entre l'offre et la demande. Quand vous avez une demande qui augmente de 1% en France, une demande de logement qui augmente de 1%, vous avez une offre qui augmente à moyen terme de 0,3%. Alors ça, c'est sûr que les prix, donc, ils montent. Hein. On pouvait prendre le problème dans tous les sens. Donc c'est ça qui caractérise le marché de l'immobilier, avec des écarts géographiques très importants, parce qu'en fait, les gens, ils veulent avoir des logements là où ils travaillent. Or, l'activité économique, dans le monde entier, mais plus particulièrement en France, elle est très concentrée et elle s'est beaucoup concentrée ces dernières années. Donc, dans ce qu'on appelle les zones tendues, les écarts, cet écart entre l'offre et la demande est très important. Et pour moi, c'est un problème social absolument majeur. C'est vraiment quelque chose qui m'inquiète énormément, les problèmes d'accès au logement. Et je vais vous dire un truc, et je m'arrête là pour cette première question, pour pas monopoliser la parole et surtout pour écouter mes camarades, mais l'opinion publique n'a pas encore fait le lien entre les prix du logement élevés et le fait qu'on construit pas assez. Les gens considèrent que les prix du logement élevés, c'est une fatalité, c'est un dysfonctionnement. Mais on est un certain nombre à expliquer qu'il faut qu'on construise plus et que en réalité, on pourrait parfaitement arriver à détendre un peu le marché si on était en capacité de construire davantage, ce qui passe par tout un tas de modifications. Mais en même temps, notre ami Robin Rivaton dit souvent, en France, on essaie de faire des trucs très compliqués, comme faire pousser des start-up, ça c'est vraiment compliqué, les logements, il suffit de les produire en quelque sorte. Alors c'est un peu caricatural, mais enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose derrière ça qui est très juste. Et donc, quand nos concitoyens auront compris que leurs enfants peuvent pas accéder au logement parce qu'on n'a pas construit assez, à mon avis, ça peut créer des désordres sociaux. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, c'est très rare, moi, que je manifeste. Hein. Mais s'il y avait une manifestation pour dénoncer le manque de logement, eh bien, sans doute, j'irais manifester.
Est-ce que, finalement, on ne verra pas arriver les gilets jaunes du logement ? Allez savoir.
En fait, là, juste un tout petit mot là-dessus, parce que votre question est provocatrice.
Mais ne se mobilise pas plus pour ça.
Mais en fait, il y a quelque chose d'assez profond dans votre question, c'est que les gilets jaunes, c'était une question au départ de mobilité, c'est-à-dire que c'était les taxes sur les carburants, les 80 km/h, etc. Ouais. Mais la mobilité et le logement, en fait, c'est le même couple, parce que pourquoi est-ce que les gens sont mobiles ? Bah, pour aller de leur logement au travail. Vous voyez ? Donc quand les gens sont obligés de s'éloigner beaucoup, beaucoup de leur lieu de travail parce qu'il n'y a pas de logement dans les villes, dans les grandes villes, ou en périphérie même des grandes villes, en première couronne, bah, et du coup, la problématique de la mobilité, elle devient absolument fondamentale. Donc, il y a un vrai sujet derrière ça. Après, il y a aussi eu des politiques sur lesquelles on pourra revenir, hein, des politiques monétaires notamment, qui ont fait beaucoup, beaucoup monter les prix des logements. Mais fondamentalement, le point essentiel, c'est qu'on n'a pas assez de logements en France. Et d'ailleurs, et là je m'arrête vraiment, mais c'est pas propre à la France, hein. Là, pour le coup, je veux dire, aux États-Unis, c'est pire, hein. Vous allez à San Francisco, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui dorment dans leur voiture, tout simplement parce que, alors là, il y a même le marché ne fonctionne même plus, les prix fonctionnent même plus. Là, on est comme en Union soviétique dans les années 50. Il y a moins de logements que de gens. Voilà. Et donc, du coup, bah, les gens, y compris des gens qui ont des professions, je dirais intermédiaires, hein, vous avez des enseignants qui dorment dans leur voiture. Voilà. Ben moi, je veux pas qu'on en arrive là en France, mais on va en prendre le chemin si on fait rien.
Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, et j'abonde complètement dans votre sens. Ce que vous dites en substance, c'est que c'est un problème social, c'est donc un problème politique. Ça veut dire que c'est aussi l'absence d'une politique volontariste sur la construction et l'aménagement du territoire que vous posez. Alors moi, j'aimerais poser la question à la maître de conférence que vous êtes. On dit ça, maître de conférence ou maîtresse de conférence?
Oui, enseignante, si vous voulez.
D'accord. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Voilà, Fana Distler, je vais vous appeler Fana, ça vous va?
Il n'y a pas de souci.
Voilà. Alors, Fana, à la lumière de ce que vient de nous expliquer l'économiste Nicolas Bouzou, qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que vous partagez le même constat?
Oui, je partage le même constat sur le décalage, effectivement, entre la demande et l'offre. Mais au-delà de ce constat-là, je pense aussi qu'il y a un facteur qui joue vraiment en lien avec le secteur de l'immobilier, c'est le facteur confiance. C'est-à-dire que cela soit les investisseurs privés que les investisseurs institutionnels, on voit bien avec la reprise des transactions, on atteint un niveau quand même qui rejoint le niveau même d'avant la crise de 2007-2008. On voit bien que l'immobilier constitue vraiment, aux yeux des investisseurs, en fait, une valeur refuge. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi un facteur de stabilisation.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et là, du coup, vous me tendez une perche pour le financier que vous êtes, le banquier que vous êtes. Quand on voit aujourd'hui la gestion en matière d'allocation d'actifs en France, allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'en fait, les choix des investisseurs, notamment ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels, on voit bien que depuis le confinement, il y a une espèce de redécouverte avec des deals incroyables sur le logement résidentiel, notamment des grosses foncières, qui ont changé complètement de stratégie d'investissement en rachetant, mais de façon absolument massive, et à essayer de reconstituer leur portefeuille résidentiel. Ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années où ils se sont carrément débarrassés de leur portefeuille résidentiel. Je prends le cas de Gecina, par exemple, qui avait lourdement, pas bradé, mais vendu son portefeuille, qui revient maintenant au logement résidentiel. Le facteur financement de l'immobilier est un facteur clé à la fois pour le bâti ancien, c'est-à-dire l'ancien, mais là, du coup, force de constater que certaines métropoles, je vous donne quelques chiffres, moins 47% de délivrance de permis de construire dans certaines métropoles, d'autres ont atteint des chiffres de plus de 80%, et je vais vous donner un cas, c'est le cas d'Annecy, lorsque le maire actuel, qui est écolo, mais à la limite, pourquoi pas, hein, c'est pas le sujet, est arrivé aux affaires, en instruction, il y avait 57 permis. Il en a retoqué 54. Et l'effet délétère de cette politique, et on lui a posé d'ailleurs la question, bah c'est que les Annéciens, bah du coup, ils ne sont pas logés, quoi. Alors, est-ce que aujourd'hui, vous, en tant que banquier ancré dans le territoire, hein, c'est un peu l'ADN du Crédit Agricole, vous constatez la même chose, et quelle est votre marge de manœuvre pour essayer effectivement de doper, à la fois dans votre relation avec la métropole, les élus locaux, le fait que vous puissiez financer parce que vous voulez financer des programmes neufs?
Oui. Alors effectivement, on fait à peu près le même constat. Hein. C'est que d'un côté, on a des particuliers, mais également des investisseurs qui sont très mobilisés sur la partie immobilière. Pourquoi déjà? Parce que les taux sont bas, les rendements des autres actifs, notamment bancaires, sont extrêmement faibles. L'assurance vie ne paye plus. Ou moins. Donc effectivement, il y a une vraie orientation vers ce sujet-là. Donc ça explique le fait que les investisseurs particuliers comme les investisseurs institutionnels se tournent vers ce type de produit. Après, comment nous, on peut les aider dans ce sens-là, c'est une démarche qu'on fait au quotidien dans le cadre des promotions qu'on peut financer, des relations qu'on peut avoir dans le territoire avec un certain nombre de maires, d'agglos, etc. Mais il faut avouer d'ailleurs également qu'il y a une partie, j'ai envie de dire, politique que nous ne maîtrisons pas. Effectivement, quand vous dites qu'il y a un certain nombre de communes de permis qui étaient en cours et qui ont été retoqués simplement parce que la couleur de la mairie a changé entre deux élections, voilà, c'est un bout d'explication. Hein. Après, je pense également qu'il y a un autre facteur de rattrapage, pour peut-être compléter la réponse de Nicolas Bouzou, qui ne s'est pas totalement fait. C'est-à-dire qu'en 2020, vous avez eu en même temps la crise sanitaire, vous avez eu en même temps les élections, et donc là, il y a des permis qui sont restés en rade, qui ne sont jamais validés. 2021, vous avez un phénomène de rattrapage, mais qui n'est pas suffisant aujourd'hui, qui est largement en dessous de la demande. Effectivement, on se retrouve avec une offre qui est décalée par rapport à la demande.
Alors, le président Emmanuel Macron nous avait promis, Nicolas, un choc de l'offre. Force de constater que c'est plutôt un choc de non-offre, hein, on va dire. Des baisses dramatiques, etc. Pourquoi on ne construit pas en France ?
En fait, c'est,
on ne veut plus construire.
C'est même pire que ça, en fait. C'est qu'en réalité, cet écart entre l'offre et la demande, il s'est plutôt accru ces dernières années. En fait, il suffit pas. Le diagnostic du président de la République est le bon. Hein, il faudrait un choc d'offre. Mais en fait, ce que l'on voit très bien, et j'en discutais encore à la sortie de cette salle avec des élus, avec des maires, qui m'expliquent très bien qu'en réalité, ils font face à des injonctions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on leur dit de construire plus. Et de l'autre, vous avez deux éléments qui ne les poussent pas à construire. La première chose, c'est que on veut construire plus à titre collectif, mais on veut pas que ce soit près de chez soi. Donc il y a un vrai problème politique, un problème citoyen. Ça, c'est la première chose. Et puis l'État lui-même envoie des injonctions contradictoires. Parce que le président de la République dit qu'il faut construire plus, mais je schématise un peu, hein, pardonnez-moi, mais c'est pour être très clair dans le débat, mais la ministre de la Transition écologique va dire attention, pas d'artificialisation,
oui,
donc construisez moins.
Voilà, zéro artificialisation nette. Voilà.
Et quand on regarde la loi attentivement, c'est plutôt la ministre de la Transition écologique qui l'emporte que la ministre du Logement. Raison pour laquelle, moi, ce que je conseille aux candidats que je vois, et qui sont tous à peu près d'accord sur ce diagnostic. Enfin, tout le monde, alors à part peut-être Yannick Jadot, et encore, je ne sais pas, il faudra en discuter avec lui, mais la plupart des candidats voient bien qu'il faut construire plus. Mais moi, ce que je leur suggère, c'est de mettre un vrai ministre du Logement. Voilà. J'ai beaucoup d'amitié pour la ministre du Logement, mais je veux dire, il faut quelqu'un voilà, qui ait vraiment du poids politique, qui ait la confiance du président de la République, et qui va pouvoir modifier la loi. Et c'est ça ce qu'il faut. Parce que si on dit seulement « construisez plus », en fait, ça marche pas. Moi, les maires me le disent. Ils me disent « sur quel terrain on peut pas ? C'est compliqué, ça prend des années. Il n'y a pas un projet pour lequel on n'a pas des années de recours. » Donc, même les élus qui veulent construire, ce qui n'est pas le cas de tous les élus, faut être motivé pour construire en raison de la problématique politique dont je parlais. Et donc, même ceux qui sont motivés pour construire, ont du mal. Si vous ajoutez à cela, je vais être un peu polémique, mais je suis d'accord avec moi-même, la loi SRU qui dit aux gens il faut construire, mais surtout n'oubliez pas que dans vos constructions, il faut mettre plein de logements sociaux. Donc vous ajoutez une complexité supplémentaire. Et donc c'est l'État, je vous le dis, envoie des injonctions paradoxales. Une toute petite anecdote en 30 secondes. J'habite dans une ville de la banlieue parisienne, qui est l'une des plus carencées en logements sociaux. C'est historique, etc. Bon, donc on essaie de rattraper le retard, mais c'est évidemment très difficile. Et pour rattraper le retard, on construit beaucoup. Mais selon la ministre du Logement, qui est une amie, ça ne va pas assez vite. Et donc, elle a enlevé les permis de construire à mon excellent maire et elle les a donnés au préfet, ce que la loi permet de faire.
Oui.
Depuis que le préfet a les permis de construire, nous avons mis en chantier, je vous le donne en mille, un logement. Ça fait à peu près un an. C'est-à-dire que c'est très intéressant. L'État lui-même n'arrive pas à respecter ses propres règles. C'est-à-dire, quand l'État prend les permis de construire et dit « Bon, ben maintenant, j'en ai marre, je vais faire des logements sociaux, vous allez voir ce que vous allez voir, parce que vous êtes une méchante ville de droite qui n'aime pas les logements sociaux, mais moi, je vais faire des logements sociaux », ben tu parles. Zéro logement, parce que l'État est quand même obligé de respecter la loi. Vous voyez, donc, il faut des changements au niveau de la loi. Et donc, au passage, et ça pour Radio Immo, c'est très important, super débat là pour la présidentielle.
Alors là,
super intéressant. Il faut sensibiliser les gens à ça. Hein.
Alors là, et d'ailleurs, je me ferai un plaisir de vous inviter comme expert sur ces candidats, parce que les candidats à la présidentielle, y compris le président Macron, viendront sur nos plateaux pour parler de la politique du logement, notamment, qui est un vrai sujet. Alors justement, quelques chiffres que j'aimerais vous donner. Il y a un peu plus de 4 millions de personnes qui sont, on va dire, en mal logement en France, dont plus de 2 millions et demi, je crois, à corroborer, sont inscrits sur les listes de logements sociaux. Autre chiffre, les deux tiers des occupants du parc de location privée seraient éligibles au logement social. Donc, ce que ça m'évoque, c'est que finalement, sans le parc privé, il y a juste un problème dans le pays. Donc, ils remplissent une fonction qui, finalement, supplétive à ce que devraient finalement faire les métropoles ou l'État pour loger décemment les Français. On est d'accord sur le constat, Fabien ?
On est d'accord, mais ceci étant, en fait, on constate quand même, c'est assez paradoxal, d'un côté, l'État se désinvestit du logement social, là, on le constate vraiment, et de l'autre côté, il y a une forte institutionnalisation par rapport, les débats de ce matin l'ont bien montré, qu'il y a une approche même très coercitive, en fait, de lois qui s'imposent de plus en plus en lien avec le logement de manière générale, mais aussi le logement privé, et qui fait que, quelque part, les acteurs de l'immobilier passent leur temps à rendre compte au lieu de vraiment définir une stratégie claire, en fait. Et ça montre bien qu'il y a, un désinvestissement d'un côté et une sorte de voilà, d'une approche, une institutionnalisation assez coercitive de l'autre côté. Donc, du coup, pour répondre à la question, c'était...
Alors, la question est la suivante. On a aujourd'hui un parc privé qui assume des fonctions que pourrait assumer, finalement, dans une certaine mesure, l'État. On va dire l'État qui est celui de loger des citoyens dont le revenu, en fait, les empêche d'avoir, par exemple, un accès normal à la propriété. Des personnes qui sont juste en dessous, qui passent même pas dans les radars de la banque au niveau des ratings, des scorings, pour pouvoir accéder à la propriété. Il y a des personnes qui touchent légèrement plus, mais pas assez pour aller dans le parc privé. On appelle ça les logements intermédiaires. Donc, ce sont des strates, en fait, qui permettent, quelque part, de générer une politique du logement multipolaire pour les typologies de situation. Est-ce que vous constatez qu'il y a des déséquilibres, notamment un déséquilibre, un phénomène sociologique sur lequel on essaye tous de lutter, mais ça, quand j'ai commenté il y a 30 ans, on en parlait déjà, qui est la gentrification urbaine, et qui, finalement, par nature, la gentrification exclut les populations et travailleurs moyens et les éloigne, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure Nicolas, de l'emploi aussi. Parce que quand on peut pas se loger en centre-ville, je ne sais pas si c'est votre cas dans la salle, il y a des jeunes qui veulent se loger en centre-ville, pas très loin de l'université ou de l'école, quand on voit le prix des loyers, et ben qu'est-ce que vous faites ? Vous n'y avez pas accès, donc forcément, vous allez en première, deuxième, troisième couronne. Fana, une réaction là-dessus ?
Non, je rejoins tout à fait le constat, effectivement, oui, Et le fait, en l'occurrence, que, enfin, le logement intermédiaire, c'est au-delà du logement intermédiaire en soi, c'est même toute la politique de ce qui s'est passé avec les APL, tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une difficulté, et ce qui touche d'autant plus avec la loi Elan aussi, la loi Elan qui a vraiment impacté les bailleurs sociaux et qui les oblige à fusionner et qui les oblige quelque part à être aussi dans une logique vraiment de gestion de clientèle au lieu du locataire qui était avant dans une approche vraiment de logement social.
Oui, enfin, les bénéficiaires du logement social deviennent des clients demain matin.
Quoi. Exactement, c'est-à-dire que c'est de plus en plus. J'avais fait une étude là-dessus, notamment sur les déclarations de performance extra-financière, donc ce que les bailleurs sociaux communiquent dans leurs déclarations à destination des parties prenantes externes, et le mot client revenait vraiment à la place de locataire. On revoit de plus en plus le mot client dans leur déclaration.
Alors, le monde du logement social a eu chaud aux fesses il y a quelques mois, puisque l'État avait prévu de ponctionner 1,3 milliard d'euros d'excédents de trésorerie. Ils sont passés au travers. C'est Jean Castex qui a tranché, effectivement. Donc, heureusement, bon, chez Action Logement, on souffle, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une mission imminente. Alors, justement, je vais parler à vous, le financier. Les crédits immobiliers, hein, cette année, c'est 240 milliards d'investissements. C'est énorme. Oui. Donc, finalement, quand on voit le marché... C'est schizophrénant, finalement, quand on voit les choses. Ça cartonne en transactions. Il n'y a jamais eu autant de crédit qui s'est développé avec un loyer de l'argent qui est historiquement bas. Et à côté de ça, Nicolas l'a rappelé, il y a ce qu'on appelle des injonctions ou des contraintes absolues, qui parfois se catapultent, mais qui sont de toute façon pas négociables, il n'y a même pas d'option là-dessus, qui est celle où on ne veut plus artificialiser les sols, donc zéro étalement urbain, sauf qu'on a quand même depuis 15 ans une pression démographique qui fait qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra bien se poser la question. Alors la question, c'est la hauteur, peut-être la verticalité, la densité, et réduire les surfaces, mais en tout cas, il faudra trouver une solution. Mais vous, les banquiers, en matière du crédit immobilier, bah, la crise, vous ne la voyez pas, quoi.
Oui. Alors je confirme que le
un paradoxe incroyable.
Au niveau bancaire, l'immobilier ne connaît pas la crise. Hein. En termes de volume d'activité, si vous prenez toutes banques confondues sur 2020, les encours sont accrus de 5,5%. Les encours. Donc imaginez la production derrière.
C'est
la durée moyenne.
Je vous pose la question, ça m'intéresse, la production, elle s'accrue de combien à peu près?
Voilà. Alors sur 2020, on est à plus 23, plus 25, et cette année, on sera légèrement au-dessus. Donc vous voyez un peu, c'est énorme. Et vous avez raison de le dire. On est beaucoup sur la transaction. Et il y a un déficit de neuf. Il y a clairement un déficit de neuf. Le sujet, il est là, quoi. Mais effectivement, les clients sont appétants. On a évoqué les raisons tout à l'heure. Les banques ont de la liquidité. Et les banques ont quelque part... j'aime bien ce parallèle. Alors je vais faire un parallèle avec la partie entreprise, qui est également ma partie. On a, dans le cadre de la crise sanitaire, on a fait beaucoup de PGE, d'accompagnement des entreprises. Et j'ai envie de dire que les banquiers ont retrouvé un peu leur métier de conseil. Il y a une reconnaissance qui a été retrouvée. Et ça, on l'a gardé. On l'a gardé, cette proximité, cet attachement au territoire, on l'a gardé sur nos clients particuliers. Et il y a une vraie volonté de faire. Il y a une vraie volonté de suivre et on a les moyens de suivre. Mais effectivement, voilà, il faut qu'il y ait de l'offre. Il faut qu'il y ait effectivement, on est sur la transaction aujourd'hui. Le marché est extrêmement actif, mais c'est de la transaction.
Alors, alors on va essayer de faire un peu de polémique, mais dans le bon sens du terme. On a vu le Premier ministre, via Emmanuel Wargon, a chargé François Rebsamen, maire de Dijon, président de la métropole de Dijon, de rédiger son rapport. Nous sommes chez lui vendredi prochain, le 19 octobre, avec nos confrères du Figaro, pour justement, on est à l'hôtel de ville de Dijon, pour parler du rapport Rebsamen. Trois mesures ont été reprises. Trois mesures. Il y en a une sur laquelle je voudrais avoir votre avis. Et ça fait quoi à ce que vous disiez tout à l'heure par le fait que les préfectures ont pris la main, finalement, sur le pouvoir, entre guillemets, régalien, de signer les permis de construire ou d'instruire les permis de construire, qui est celui d'un contrat avec l'État et les métropoles? Est-ce que vous l'avez vu, ça?
Oui, alors...
Est-ce que vous y croyez à ça? Parce que, apparemment, ces trois, et on parlera des autres, bien évidemment, mais celle-ci me paraît emblématique, elles ont été retenues par Jean Castex, dans son discours d'ouverture du congrès de l'Union sociale pour l'habitat, le congrès de l'USH qui avait lieu à Bordeaux.
Alors, Nicolas Bouzou. Je laisserai répondre mes camarades sur les aspects techniques. Je ne suis pas un spécialiste du logement, mais sur évidemment, cette idée de contrat entre l'État et les métropoles, c'est une idée qui est forcément bonne sur le papier. Mais en réalité, on peut déjà contractualiser. Les villes peuvent déjà faire des contrats avec l'État. Par exemple, sur les logements sociaux, typiquement, j'en parlais tout à l'heure, quand on est carencé et qu'il est très difficile de passer la barre des 20 ou des 25% de logements sociaux à court terme, on peut parfaitement faire un contrat avec l'État et essayer de négocier un peu l'amende, etc. Donc tout ceci est possible. Je voudrais faire deux remarques par rapport à ça. Première remarque, je l'ai dit, quand vous faites un contrat, vous êtes quand même obligé de respecter la loi. Donc c'est pas ça qui va résoudre la question de l'étalement urbain. Si vous n'avez pas le droit de faire de l'étalement urbain, vous pouvez faire tous les contrats que vous voulez, vous n'allez pas faire un contrat qui déroge à la loi. C'est pas possible. En France, en l'occurrence, il faudrait regarder de près, demander à des juristes, mais je pense que constitutionnellement, c'est même pas possible. Il y a des pays où c'est possible, les Pays-Bas, etc. Mais en France, je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Mais de toute façon, ça ne se fera pas. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai maintenant 15 ans d'expérience des politiques publiques, conseil aux entreprises, conseil au gouvernement, et donc je sais que l'État respecte pas toujours les contrats. Et qu'il y a aussi une défiance entre les collectivités locales, y compris les métropoles, et l'État. Voyez, donc je dis très bien sur le papier, hein, on ne peut qu'être pour, mais ça nécessite sans doute un ajustement de la loi, et puis un changement quand même de mentalité dans les rapports entre les collectivités locales et l'État.
Alors, la question de l'aménagement du territoire, Fana, c'est un sujet majeur sur les politiques publiques, mais aussi les politiques d'aménagement. Aujourd'hui, quand on voit le comportement des investisseurs institutionnels, on se rend compte qu'en fait, leur logique d'investissement s'oriente uniquement sur des grandes métropoles Et uniquement sur des, c'est ce qu'on appelle les quartiers prime, c'est-à-dire des emplacements, des portefeuilles avec des taux de rentabilité interne qui sont élevés, au détriment finalement d'un équilibre territorial qui finalement subit cette peine-là, puisque ça réoriente les investissements, pas forcément là où il faut. Est-ce que c'est structurel sur le marché de l'immobilier français ou pas ?
Est-ce que c'est structurel sur le marché du français, le fait en l'occurrence de miser sur les grandes métropoles, je dirais, j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi, parce que là on parle beaucoup de l'immobilier à travers essentiellement le résidentiel et le logement, oui, et au-delà de l'immobilier résidentiel, l'immobilier c'est aussi les bureaux, c'est aussi l'immobilier de commerce,
l'hôtellerie
effectivement, ouais. Et donc en fonction de la typologie de biens immobiliers, on ne pourra pas faire forcément le même constat. Juste par rapport quand même, pour revenir à la dimension du financement, c'est vrai qu'il y a cette idée de liquidité existante donc au niveau des banques. Mais il y a aussi, et qui va peut-être changer la donne, en tout cas peut-être stabiliser, ou je ne sais pas ce que ça va donner derrière, mais les recommandations du Haut Conseil sur la stabilité financière, qui fixe désormais notamment une durée limitée au crédit immobilier, donc on ne peut plus excéder 25 voire 27 ans dans la durée notamment des crédits immobiliers, et qui fixe également les 35% de taux d'endettement, qui étaient déjà les règles qui étaient déjà existantes, mais avec à partir de janvier 2020 un contrôle vraiment donc des pratiques des établissements bancaires, justement pour éviter qu'il y ait un octroi trop facile, ce qui participe d'ailleurs derrière aussi à l'envolée des prix, puisque quand on offre octroi des crédits immobiliers, ça participe à faire augmenter la demande, donc derrière ça contribue aussi à l'augmentation des prix.
Alors Richard, est-ce que finalement l'accès au crédit, alors on sait que le ventre mou du marché en transaction immobilière, c'est la primo-accession.
Oui, bien sûr.
C'est le tracteur du marché, parce qu'à partir de là, on devient logiquement de primo à secondo, oui. À secondo, et ensuite on investit, etc. Et c'est l'achat d'une vie. Hein. On sait que le coefficient de détention patrimoniale en France, il est faible, je crois qu'il est de 1, à peine de 1. C'est-à-dire que concrètement, on est propriétaire de sa résidence principale. Bon, ceci, ça casse un peu le mythe aussi du multipropriétaire français capitaliste. C'est pas du tout le cas. Le HCSF, c'est un peu schizophrénant parce que, à une époque, ils avaient resserré un petit peu les boulons en disant, attendez, on tapait sur les banques, vous prêtez trop. Puis, le 1er janvier 2021, relâchement, on est passé de 33 à 35, 35 pour le 9, je précise, avec une durée maximale de 25 ans. Bon. Question. Paradoxalement, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais j'aimerais que vous parliez au titre du Crédit Agricole, on a vu un scoring, un rating, en fait, beaucoup plus élevé, notamment sur, par exemple, les personnes qui n'ont pas ou très peu d'apport. Et on voit bien qu'il y a une corrélation entre l'acte d'achat qui permet effectivement de se libérer, de s'affranchir, notamment sur des loyers qu'on peut requalifier de payés à fonds perdus, dans une certaine mesure, même si parfois on fait un lien entre la propriété et le manque de mobilité, parce que ça immobilise les gens sur une durée longue. Est-ce que aujourd'hui au Crédit Agricole, vous allez au maximum du délai, je crois, c'est 20% au-dessus des normes?
Oui.
Est-ce que c'est votre cas aujourd'hui? Vous, en Lorraine, vous êtes à fond sur ce sujet-là?
Alors, clairement, on est en limite.
C'est-à-dire que vous êtes déjà au taquet des...
On est dans les 20%, mais pour être simple, on le gère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui... Alors, je pense que pas pour un marché, il faut un garde-fou. Donc il n'y a pas de débat par rapport à ça, et ça nous va bien. Après, la difficulté, c'est que c'est un modèle qui a l'intérêt d'être simple, mais qui en même temps ne correspond pas à tout le monde. Lorsque vous dites, voilà, il y a un taux d'effort de 35%, 35% si vous avez 3 000 euros de revenus pour un couple, et si vous en avez 10 000, c'est pas la même chose, et le reste à vivre n'est pas du tout le même.
C'est clair.
Et en fait, ce qu'on est en train de pénaliser un petit peu, ce sont les petits investisseurs, c'est-à-dire finalement celui qui a son habitation, mais qui veut faire de l'immobilier, qui peut défiscaliser, qui veut avoir une approche patrimoniale. Et à un moment donné, on va dire, aux états 35%, ça ira pas plus loin. Et donc, effectivement, aujourd'hui, ça reste raisonnable. J'ai ouï dire que ça allait encore se renforcer début 2022, ou se durcir. Oui. Si c'est le cas, ça risque de devenir problématique, parce que je ne vais pas employer le mot d'encadrement du crédit, parce que ce n'est pas le bon, mais à un moment donné, ça va quand même commencer à freiner la machine. Quoi.
Alors, c'est intéressant, ce que vous... Oui, vous vouliez réagir, Nicolas,
peut-être. Non, allez-y.
Alors, justement, je vais abonder là sur l'idée. On a posé la question à Emmanuel Wargon, on l'a dit, voilà, pourquoi, effectivement, le HCSF a mis en garde les banques, quelle est votre position sur le crédit ? Voilà, voici ce qu'elle nous a répondu, texto. Mmh. Le gouvernement a fait le choix de ne plus ou de moins endetter les Français. Autrement dit, le choix, c'est de dire, c'est risqué de prendre un crédit, le prenez pas, continuez finalement à payer un loyer. On peut pas dire que c'est à fond perdu, mais quand même, l'avantage du crédit immobilier long terme, c'est quand même une épargne à l'envers, hein, quelque part, dans une certaine mesure. Et je pense qu'il n'y en a pas un ici qui va dire, voilà, j'aimerais payer toute ma vie un loyer. Forcément, on a tous envie de capitaliser, moi le premier, voilà, on est d'accord là-dessus. Sauf que dans le même moment, elle nous dit, et d'ailleurs elle reconnaît dans une certaine mesure l'ambiguïté du discours, que de toute façon, pour effectivement développement durable, impact sur le climat, etc., on ne pourra plus construire. Donc, c'est tous les ingrédients d'une crise sociale.
Non, ça ne va pas.
Voilà, ça ne va pas. C'est-à-dire que le problème que j'ai, moi, en tant que journaliste, Nicolas, et j'aimerais que vous m'aidiez à décrypter, ouais, c'est qu'on a du mal à avoir de la lisibilité dans une cohérence claire de cette politique.
Non, voilà. Ça ne va pas du tout. Les gens s'endettent beaucoup au titre de l'immobilier parce que les prix sont élevés. C'est pas parce qu'il y a une espèce de frénésie pour l'immobilier en France, c'est pas parce qu'ils veulent spéculer sur l'immobilier, parce qu'ils veulent acheter trois logements, c'est pas ça. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que les prix sont élevés, que les emplois en France, comme partout, je l'ai dit, sont plutôt aujourd'hui dans les métropoles, c'est-à-dire là où ça coûte le plus cher, là où on a le plus de mal à densifier, là où on a le plus de mal à construire. Et comme en France, en plus, on a encore un taux de fécondité qui est raisonnable, qui est pas très élevé, mais quand même, vous avez beaucoup de gens qui ont deux enfants, donc ils ont besoin d'avoir une ou deux chambres supplémentaires, mais forcément, vous avez une demande de crédit qui s'allonge. Et comme en plus, ça c'est tout à fait indépendant, mais on est dans un contexte financier où les taux d'intérêt restent incroyablement bas, y compris d'ailleurs sur le marché de l'immobilier. Je regardais les statistiques dans le train ce matin, on est encore sur des taux qui sont incroyablement bas. Mais du coup, voilà, vous avez un ensemble de facteurs qui amènent l'endettement des ménages à croître. Mais c'est, me semble-t-il, ça n'est pas un problème qui m'inquiète beaucoup. Déjà parce que les gens s'endettent, mais en même temps ils deviennent propriétaires, donc ce qu'il faut regarder, c'est le patrimoine net des gens. À partir du moment où les prix continuent d'augmenter, en réalité ils font plutôt
ils accroissent leur patrimoine.
Oui, alors ils vivent dans des trucs pas très grands, en tout cas ils accroissent plutôt leur... quand les taux d'intérêt sont à zéro, c'est les questions de l'effet de levier, voilà, c'est des calculs mathématiques qui sont extrêmement simples, mais quand vous avez des taux d'intérêt
à zéro, ça va remonter de façon un peu structurelle.
Les taux d'intérêt, en France, les gens sont à taux fixe, pour l'essentiel, à 80%. Oui. Donc ça poserait des difficultés pour ceux qui sont en train d'arriver sur le marché, bien sûr.
Évidemment. Ça ralentirait la volume.
Mais je vais vous dire, il y a plus grand monde qui arrive sur le marché. C'est ça le problème. Les primo-accédants ont de plus en plus de difficultés. Oui. Donc en fait, on est en train de créer deux classes. La classe des propriétaires et la classe des non-propriétaires, mais avec une immense difficulté, c'est que la classe des non-propriétaires... Les classes sociales, moi, ça me dérange pas. Marx n'avait pas forcément tort, mais ce que je veux, c'est qu'on puisse passer de l'une à l'autre. Si, en revanche, les deux classes sont complètement isolées, si vous ne pouvez pas passer de la classe des non-propriétaires à la classe des propriétaires, là, vous avez un problème majeur, surtout en France, où, pour beaucoup de raisons, mais notamment pour des raisons liées aux retraites, les gens considèrent, à mon avis, à fort juste titre, d'ailleurs, je ne suis pas patrimonial, mais je pense que c'est quand même globalement une bonne idée d'arriver à 60 ans en étant propriétaire de son logement et en ayant remboursé la plus grosse partie de son crédit. Ça me semble assez raisonnable, vous voyez. Donc, donc les gens partagent ça. Donc il faut prendre le problème dans ce sens-là. Faut pas dire il y a trop de crédit, on distribue trop de crédit, les banques prennent trop de risques. Non, en plus les banques en France, honnêtement, alors de toute façon vous me confirmerez forcément sur ce point, mais de ce que j'en vois, depuis 2008 quand même, les banques ont considérablement renforcé leur ratio de solvabilité, leur ratio de liquidité. Il y a pas de subprime, il n'y a pas ce genre de choses en France, il n'y a plus de titrisation en plus, ou quasiment plus, si vous regardez un petit peu plus loin. Il me semble pas, je peux me tromper là encore, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu, mais il me semble pas qu'on soit très à risque sur ce sujet. Non, le vrai problème, c'est les prix des logements anciens.
Et pour qu'il y ait, finalement, parce que quand même c'est triple peine, resserrement de l'accès au crédit pour les primo-accédants, quasiment à un taux très bas de construction de logements neufs, Et donc, du coup, rabat mécanique sur le logement ancien qui fait donc mécaniquement augmenter les prix. Vous voulez réagir, Fernand Dissler ?
Oui, enfin, juste pour dire que ça part quand même d'un principe de prudence derrière hein, tout ceci. C'est que ça donne l'impression un peu, on essaye de réguler, mais c'est vrai même si, et c'est d'ailleurs c'est ce qui caractérise un peu le système français et qui nous protège quelque part, on l'a bien vu par rapport à la crise de 2008, où cette approche prudentielle-là de faire attention à la solvabilité, notamment des ménages ou des emprunteurs avant d'octroyer un crédit. Et c'est en cela que la stabilité financière dépend vraiment de... Peut-être pas vraiment dans le sens de réguler, mais je pense que cette approche prudentielle est quand même importante.
Réaction, Richard ?
Oui, je pense que... Enfin, on a peut-être de très mauvais souvenirs sur la partie immobilière, notamment sur ces subprimes, mais il faut bien se dire qu'en France, on n'est pas du tout par construction sur ce modèle-là. On l'a dit tout à l'heure, aux États-Unis, les subprimes, en trois mots, hein, c'était des taux variables avec des crédits in fine. Et derrière ça, des gens qui ont des revenus stables, alors cherchez l'explication. Là, on est sur une approche de loan to value, c'est-à-dire que finalement, on était sur l'espoir que le bien allait toujours se valoriser.
À l'infini, oui.
Donc, c'est complètement faux. Ouais. Aujourd'hui, en France, l'immobilier perd 20%. Eh ben, les propriétaires qui ont un crédit à rembourser, ben, normalement, sauf crise économique, le rembourseront toujours. Les locataires payeront toujours leur loyer. Par contre, effectivement, si demain on a une crise immobilière, on peut avoir un réel travail. Et ça, c'est notre job au quotidien de banquier, d'être sur les professionnels de l'immobilier qui, eux, vont souffrir. Parce qu'effectivement, à un moment donné, voilà, il va y avoir un décalage d'offres de demande. Il y a un effet de ciseau qu'on a déjà un petit peu aujourd'hui avec l'augmentation des prix des matières premières. Ou sur un certain nombre de promoteurs, on commence à sentir que le niveau de marge se resserre très, très fortement.
Les actifs immobiliers sont hétérogènes par nature. Vous êtes d'accord là-dessus? Et on ne peut pas modéliser ni standardiser l'approche économique du bâti, du territoire, d'un territoire à un autre. Ce qui n'est pas évident à modéliser.
C'est de plus en plus vrai, hein, cette hétérogénéité, elle s'accroît considérablement. Parce que quand on regarde des prix en France, on regarde les prix en moyenne, donc on dit, voilà, les notaires nous disent, ça augmente de 5-6% sur un an à peu près. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est à l'intérieur de ces indices, des mouvements qui ont été très importants ces dernières années. Et en fait, il y a des endroits... Alors c'est peut-être en train un tout petit peu de changer, mais... Il y a des endroits où les prix, je dirais, ils tendent presque vers l'infini. Enfin, ils montent et ils peuvent continuer de monter. Donc, c'est schématiquement le centre des métropoles avec beaucoup d'activités économiques. Donc, Paris, Bordeaux, Toulouse, etc. Vous connaissez ça par cœur. Mais à l'inverse, vous avez des biens dont les prix tendent vers zéro. Vraiment. Parce qu'il n'y a pas de demande.
Eh oui. Voilà. Oui, bien sûr.
Alors, il se trouve que je connais très bien la région Grand Est. J'ai une maison de famille à 70 km au sud de Nancy. Vous avez des fermes absolument extraordinaires sur des très grands terrains qui se vendent 25 000 euros, quelque chose comme ça, vous voyez. Donc, et en fait, c'est logique, parce que ce sont des endroits qui se sont désindustrialisés, il n'y a plus d'économie, les services publics sont partis, donc la démographie... Donc, vous voyez, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. Alors, peut-être...
Quel paradoxe quand on... Non, mais c'est incroyable, cet espace que l'on a... à proximité des grandes villes,
en plus.
Des endroits sublimes, et on galère à vivre dans des chiottes, excusez-moi l'expression, dans les centres-villes. C'est avec des chambres qui font quoi, 8 mètres carrés, 9 mètres carrés.
Alors si vous me permettez d'ajouter quelque chose, mais là je suis extrêmement prudent, c'est peut-être en train de commencer à changer sous l'effet de la crise du
Covid
et sous l'effet de cette mutation que vous connaissez, mais à mon avis dont
vous
on n'a pas.
Vous y croyez, à l'exode urbain des grandes métropoles?
Je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas, c'est que quand vous avez 30 à 40% des métiers qui sont télétravaillables en France et que les entreprises sont en train de faire converger les accords d'entreprise, ils sont signés en ce moment, accords de branche plutôt accords d'entreprise.
Ouais.
Ils sont assez ambitieux, finalement. On va vers deux jours et demi de télétravail. Je peux vous dire que 2 jours de télétravail par semaine sur 30 à 40% des gens qui travaillent, c'est un changement sociologique, économique absolument majeur dont on n'a pas fini de voir les effets. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on va voir, ça va nous apporter plein de surprises. Moi, mon sentiment...
Les études qui ont été menées, puisque on a fait quelques sondages auprès de 10 000 foyers sur notre média et avec mes confrères de la presse immobilière, Challenge, Le Monde, BFM, où on a constaté qu'effectivement, c'était pas patent. C'est-à-dire que c'était pas, c'est pas un mouvement anthropologique, urbain, où on a un exode massif, etc. Il y a des signes.
C'est peut-être pas un exode, mais c'est peut-être autre chose. Alors, c'est peut-être du collectif vers l'individuel. C'est peut-être du collectif vers l'individuel.
Je vais aborder.
Alors là, la ministre de la Transition écologique va encore plus s'arracher les cheveux.
Ouais.
Et c'est peut-être aussi des centres-villes vers les premières, deuxièmes couronnes ou vers les villes moyennes, mais pas nécessairement vers les campagnes. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que par exemple, on a listé 10 villes moyennes parmi lesquelles il y a par exemple 3, Poitiers, des petites villes moyennes, eh bien, qui retrouvent des couleurs démographiques alors qu'elles étaient en dégradation démographique. Donc c'est très intéressant. Et ça corrobore effectivement. Ce que dit Nicolas Bouzou est très juste, c'est-à-dire que si vous prenez simplement 30% des activités télétravaillables, c'est un mouvement sans précédent sur le plan sociologique. Ah oui. Et là, je partage complètement votre analyse. Il est presque l'heure de nous quitter. Je voudrais qu'on fasse une petite conclusion rapide chacun par rapport à la thématique du jour. Merci en tout cas d'y avoir participé. Je vais commencer par vous, Richard Rostouchet. On est sur 2021 avec un chiffre incroyable, vraiment incroyable. Et on voit bien qu'effectivement, la confiance qu'ont les Français sur la pierre, mais c'est aussi la traduction d'un stress économique, puisque c'est un refuge vers la pierre, c'est historique. Hein, il y a quelque chose qui nous ramène vers la pierre. Je rappelle simplement que les Français ont inventé réellement le droit de propriété. Hein. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, vous savez, en 1789, il y a une révolution qui disait liberté, égalité, propriété. Et ça a changé 3 ans plus tard.
On aurait dû garder ça.
C'est devenu liberté, égalité, fraternité en 1792 exactement. C'est-à-dire qu'effectivement... Donc non, mais c'est intéressant de prendre l'histoire parce qu'en fait, en réalité, le combat social, c'était le combat d'accès à la propriété. Richard, quelques mots.
Oui, je crois que c'est une vraie tendance de fond. Hein. On l'a évoqué pour différents sujets. Hein. Il y a une volonté d'accession à la propriété. Les Français sont en retard. On est à, je crois, 65% de propriétaires. Alors, la communauté européenne, je crois qu'on est à plus de 70. Donc, effectivement, il y a une vraie volonté de rattrapage. Il y a un certain nombre de phénomènes qu'on a évoqués. Voilà, on essaie de sortir un peu des villes. Il y a la notion de durable. Il y a plein de facteurs qui, aujourd'hui, pousse effectivement à notamment développer le résidentiel. Mais au-delà de ça, je crois que il faut que l'ensemble des acteurs, j'aime bien votre première question qui était par rapport finalement qui était beaucoup plus générale par rapport aux institutionnels, etc. Finalement, comment faire globalement pour développer cet immobilier, quoi. Hein. Et juste terminer sur un élément. On a aujourd'hui dans nos clients un certain nombre de promoteurs notamment. Qui, en termes de coûts de production, sont inférieurs à ce que peut faire l'État. Et avec un facteur qui est quand même important aujourd'hui, c'est que avant, lorsqu'un promoteur faisait un financement, il était nettement plus cher que l'État indirectement la CDC parce que les taux étaient élevés, il y avait un décalage de taux. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de décalage. Donc aujourd'hui, à partir du moment où on arrive à des promoteurs à leur fournir des terrains, parce que le sujet est là aujourd'hui.
Ils savent faire.
Voilà. C'est-à-dire que si les communes étaient capables, alors il y a entre toute la problématique par rapport au monde agricole, ne pas consommer des terrains agricoles, mais si on était capable, notamment sur les dents creuses, ou en démolissant un certain nombre de bâtiments vétustes, etc., à refournir des terrains des promoteurs, je pense que le côté privé pourrait même prendre le dessus, sur, notamment pour des locations ou l'achat pour des revenus modestes. Je pense qu'il y a un vrai
sujet. Ce qui serait une excellente chose. Fana Disler.
Oui, donc pour parler un peu d'autres immobiliers, parce qu'on parle essentiellement là de résidentiel, il y a notamment d'autres actifs immobiliers, en revanche là qui sont dans une situation beaucoup plus difficile, et je pense notamment lié avec ce que vous disiez à l'immobilier de bureau, hein, développement, 45% des salariés semble-t-il souhaitent réorganiser leur travail en y introduisant du télétravail. Quand on entend qu'un groupe comme PSA a déjà annoncé une réduction de 30% de leur surface de bureau. Donc, ça veut dire que la tendance qui existait déjà avant la crise...
Qui était déjà bien engagée, il faut le dire.
Bien engagée, bien mais qui a été accentuée, on va la dire, par la crise, exactement. Et je pense que là, il y a quand même un impact durable sur l'immobilier de bureau. Et je pense aussi à l'immobilier de commerce, qui, on a évoqué tout à l'heure, l'évolution des usages, des modes de consommation, qui conduit au développement de plus en plus de tout ce qui est e-commerce. Et là, je pense, un intérêt un peu plus vers l'investissement sur l'immobilier logistique.
Merci, Fana Disler. Nicolas Bouzou, en conclusion, les options sont plutôt optimistes de votre point de vue, de l'observateur que vous êtes ?
En fait, ce que je trouve absolument passionnant en ce moment, c'est les mutations qui sont enclenchées par la crise. Et en effet, si on élargit un peu, au fond, je dirais que le logement, schématiquement, c'est il n'y a pas assez de logements et ils ne sont pas nécessairement aux bons endroits. Mais ce qui rajoute de l'équation, de la complexité dans l'équation, c'est qu'on se demande si les Français veulent pas aussi changer d'endroit. Les bureaux, c'est un peu l'inverse. Les bureaux, il y en a trop. Et autant les Français en matière de logement veulent peut-être plutôt sortir des villes, autant les bureaux veulent plutôt retourner dans les centres-villes. Parce que si vous faites du télétravail, c'est tout le problème de la défense en ce moment. Pardonnez-moi de parler d'un truc de parisien, mais c'est un sujet, je trouve, assez illustratif. C'est-à-dire que les salariés n'avaient vraiment pas envie de retourner dans les tours de la défense. Alors, on dit beaucoup
qu'il
faut faire des actifs fongibles et transformer les bureaux en logements. Oui. Ça aussi, c'est une idée qui court beaucoup dans les ministères. Moi, j'en parle beaucoup avec les promoteurs, etc. D'accord, bah, transformer la tour NJ de la défense en logement,
c'est
pas si simple que ça. Hein.
C'est clair.
Et puis, vous avez une question aussi fondamentale qui a à voir avec le logement et le bureau, qui n'est pas celle de notre table ronde, mais j'attire votre attention là-dessus parce qu'elle est aussi absolument passionnante, c'est celle de la transformation des commerces, qui là aussi a été complètement mais accélérée avec la crise. Et moi, j'ai une vision assez radicale des choses. Je pense que vraiment, quelqu'un qui meurt aujourd'hui, c'est un client en moins pour les hypermarchés. En revanche, je crois qu'il y a quelque chose qui est très intéressant qui est en train de se passer dans les centres-villes. Donc, ce marché immobilier dont la racine est immo, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, en fait, est aujourd'hui en train de se mouvoir comme la politique. Vous voyez les sondages en ce moment qui n'arrêtent pas de bouger, etc. On est sur des sables mouvants, ben dans tous les domaines, y compris l'immobilier, on a l'impression d'être sur des sables mouvants.
Eh bien écoutez, je prends rendez-vous avec vous, Nicolas Bouzou, pour rencontrer tous les candidats à la présidentielle, y compris notre président de la République.
Ben, j'en vois un ce soir,
justement,
explique à cravate.
Voilà, et lui dire les choses comme elles sont. En tout cas, merci d'y avoir participé. Le prochain plateau, mesdames et messieurs, est à 13h. C'est quelle est la valeur du fonds de commerce de nos agences immobilières? Comment faire pour la booster? Je voudrais qu'on remercie chaleureusement Richard Restouché, directeur Crédit Agricole de Lorraine. Merci Richard. Un grand merci, applaudissements à Fana Disler, titulaire de la chaire RM. Merci beaucoup, universitaire. C'est un plaisir de vous avoir. Et un triomphe à Nicolas Bouzou, notre économiste préféré. Merci à toutes et à tous. On se retrouve à 13h.
Les Assises de l'Immobilier de Metz 2021.